Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Alors, nous allons continuer encore un petit peu ce soir avec ce moment du XVIe siècle. Luther d'un côté, le Concile de Trente de l'autre côté. Je n'insiste pas trop, vous l'avez déjà remarqué, sur les différences et les polémiques confessionnelles, en mettant la notion d'expérience au centre du parcours. Je tente précisément de relire un peu ce moment tout à fait décisif dans l'histoire de la sotériologie et de l'anthropologie, en montrant en même temps son actualité, la notion d'expérience, donc qui revient ici. Et à l'arrière-plan, évidemment, ce débat, vous avez une mutation qui s'annonce, l'univers qui s'ouvre. Je pense au grand ouvrage de Coiré, hein, de l'univers fini vers l'univers ouvert et infini, avec les expériences d'incertitude très radicales de l'être humain. Il y a évidemment un contexte aussi difficile, etc., d'un point de vue politique, de tous les points de vue. Et du coup, cette notion d'expérience prend du relief dans le cadre du nominalisme, à la fois, je dirais, autour du rapport entre la volonté divine. C'est finalement la question. Cette volonté divine n'est plus donnée d'emblée. Il faut décoder la volonté divine. Et c'est là où va intervenir la notion d'expérience. Donc la volonté humaine qui guette les événements imprévisibles, imprévus de l'histoire individuelle et collective. Il discerne, pour y discerne, autant de signes de la faveur, du plaisir de Dieu. Et donc, on est ici dans un univers de discernement, d'incertitude. Il n'y a plus d'ordre prédéterminé et il faut progressivement découvrir quelle est cette volonté de Dieu. C'est ça, au fond, qui fait basculer, je dirais, l'anthropologie déjà, pourrait-on dire, au XVIe siècle, dans un univers moderne. Même si, évidemment, il y a toujours des tuilages entre les époques. Voilà, donc ça, c'est le point que j'ai beaucoup développé dans la première partie de ce chapitre, donc à la page 56-57, le nominalisme. Je n'y reviens plus. Et ensuite, on va compléter un tout petit peu maintenant ce que j'ai déjà exposé la dernière fois sur la pensée, sur la théologie et, je dirais même, de l'expérience de Luther. Parce que lui, il va même forger cette notion, l'expérience seule fait le théologien. Donc vous n'avez plus une théologie séparée des Écritures, mais c'est une théologie des Écritures déployée dans les Écritures en lien avec l'expérience de la foi. Alors, sur le plan individuel, cette expérience se retrouve évidemment dans son récit, ces deux récits que nous avons de sa conversion. Et c'est là qu'on voit qu'au fond, il y a toujours Augustin ici à l'arrière-plan, sorte de modèle généalogique, la genèse, rejoindre la genèse même de l'expérience de la foi. Un Augustin bien dramatisé et déplacé, il faut le dire aussi. Et il y a le versant, je dirais, d'universalisation, qui est très très important chez Luther, universaliser cette expérience en lien précisément avec la matrice, le sola scriptura, l'écriture seule, lue à partir d'un centre. C'est la notion de concentration que j'ai introduit la dernière fois et que je vais un peu reprendre. Donc le centre de cette lecture et de cette expérience se trouve dans l'épître aux Romains, essentiellement. L'épître aux Galates, l'épître aux Romains. Et on pourrait dire autour de ces différents niveaux que vous trouvez dans le chapitre 10 de l'épître aux Romains, la bouche et le cœur. La bouche et le cœur. Si de ta bouche Chapitre 10 de l'Épître aux Romains. Tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Voilà, si vous voulez, un peu le cœur, je dirais, de cette expérience. Luther est extrêmement sensible, sans doute le premier, par rapport à deux choses. C'est l'imprimerie, qui est un moyen extraordinaire d'universaliser les choses, de diffuser. Donc, vous voyez, c'est un seuil un peu analogue à celui que nous sommes en train de vivre avec la révolution d'Internet, etc. C'est tout à fait analogue. On sort de l'oralité pour entrer dans un univers où on peut communiquer par l'écriture, l'écrit. Mais lui, il perçoit immédiatement la limite de cela parce que la foi vient de l'écoute, la foi ne vient pas de la lecture. La lecture ne conduit pas vers la foi. La foi vient de l'écoute. Et donc, il doit rejoindre le cœur. Et ça, c'est, si vous voulez, je dirais, une première révolution théologique greffée sur une révolution culturelle, si je puis dire. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est l'invention du catéchisme. C'est lui qui a inventé le modèle du catéchisme. Ensuite, le Concile de Trente, un Saint-Pierre Canisius, avant même, ont suivi ce modèle d'une certaine manière. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce catéchisme et pour voir comment il fonctionne à partir de ce schème bouche, cœur et corps. Un troisième élément, évidemment. Je vous invite de regarder donc le schéma à la page 175. Qui tente, si vous voulez, de vous donner un peu tous les éléments de cette expérience universalisée, hein, avec la question comment transmettre cette expérience de foi, hein, et comment, je dirais, y accéder. Donc vous avez sur la ligne horizontale, d'abord je dirais simplement les cinq chapitres, et qui sont des extraits de l'Écriture. Donc les 10 commandements, le symbole, je viens de le citer dans son noyau à l'instant dans l'Épître aux Romains déployé, le symbole, le Notre Père, la parole de l'institution pour le baptême, la fin de Matthieu et la parole de l'institution pour la scène. Alors comment, d'une certaine manière, ça c'est linéaire, comment arriver à une concentration? Alors, je vous ai donné déjà la dernière fois le début du... nous sommes maintenant à la page 58 de votre polycopier. Mais restez avec le schéma, je vais vous résumer un peu les choses rapidement, ce que nous avons dit. Hein. Je vous avais déjà donné cette citation absolument remarquable. C'est au fond la foi qui est le centre et qui fait à la fois Dieu et l'idole. Car ce à quoi tu attaches ton cœur et tu te fies est proprement ton Dieu. Voilà. Donc ce lien intime entre foi et Dieu. Voilà le centre ultime et les premières pages du catéchisme décident finalement de tout le reste. Alors si on regarde un peu ce schéma, comment fonctionne donc la concentration? C'est essentiellement... autour, vous voyez, j'ai mis en haut, en grandes lettres, la loi et l'évangile. Au fond, au cœur de cette anthropologie, cette sotériologie, il y a la nouveauté du Nouveau Testament. Et c'est l'évangile par rapport à la loi. Mais on quitte jamais la loi. Donc c'est ce rapport-là qui est central. Donc j'apprends d'abord dans le catéchisme ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez, j'ai inscrit ici ça sur le schéma. Donc la loi est bonne, elle m'apprend ce que Dieu veut. Rien n'est prédéterminé, vous voyez, la volonté de Dieu est là. La loi me l'apprend, le décalogue. Et qu'est-ce que je découvre? Deuxième élément du premier chapitre sur les commandements, précisément ce que je ne fais pas. J'apprends en même temps la loi, Et j'apprends, quand j'apprends la loi, que je ne fais pas ce que la loi me demande. Chapitre 7 de l'Épître aux Romains, je ne fais pas ce que je veux au fond de moi-même. Puis-je ajouter cela? Oui, c'est ça. Et ce que je fais, je le hais. Donc, vous voyez la division. Donc, au fond, je fais l'expérience du jugement de Dieu à ce moment-là, dit Luther. Et je le rejoins sub contrario, sous le contraire. Je le rejoins en pécheur, c'est-à-dire je découvre que la loi me juge et je me juge moi-même. Et là, on rejoint évidemment toute la crise que Luther lui-même a traversée d'une manière extrêmement radicale, extrêmement radicale. Jusqu'au désespoir. Et donc l'évangile, deuxième chapitre, représenté par le symbole, ce n'est plus ce que Dieu veut que nous fassions, ce que nous devons attendre de Dieu. Ce que nous devons attendre de Dieu. Et c'est précisément la justification. La justification. C'est seulement quand je fais vraiment l'expérience de la colère de Dieu, l'Épître aux Romains, chapitre 2, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la colère de Dieu? Pour Luther, c'est pas Dieu en colère, c'est-à-dire c'est son jugement qui s'exprime dans ma propre crise de conscience comme pécheur. C'est alors et seulement alors que l'Évangile peut faire éruption. Dieu nous communique sa justice sans aucune œuvre de notre part, par notre foi seule. La découverte donc du péché conduit vers l'attente de l'Esprit qui seul peut susciter la foi et emmener l'homme à l'écoute, à l'obéissance. Si vous voulez, c'est cette belle expérience que Luther reprend, c'est le larron à côté de Jésus sur une croix, à côté de lui. Et c'est au fond ça qu'il s'agit d'entendre, dit Luther. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est, vous voyez, on est dans une sorte d'actualisme. C'est l'aujourd'hui qui est l'enjeu. L'aujourd'hui. Donc apparaît à ce moment-là à la fois la véritable paternité de Dieu, la rédemption, j'y reviendrai, et l'Esprit dans nos cœurs. C'est donc, si vous voulez, j'ai dit, la tension entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Il n'y a pas d'abord l'homme ancien et ensuite l'homme nouveau, mais les deux cohabitent, selon Luther, dans l'être humain et ne cessent d'être en combat dans nos existences quotidiennes. Alors, quand je fais cette expérience-là, alors je peux me faire initier à la prière. Apprends-nous à prier. Luther prend ça très au sérieux, c'est-à-dire la demande. La demande, c'est-à-dire à ce moment-là, vraiment, j'ai besoin de prier. Et donc, la foi et l'obéissance, l'écoute, conduisent vers la prière comme expression de l'homme nouveau, même chez Luther dans le champ, c'est le texte de l'Apocalypse d'aujourd'hui, ceux de l'extérieur n'entendent que la mer gronder et les tonnerres, alors... En vérité, pour les 144 000, il s'agit du chant, du cantique nouveau, accompagné par les 10 sitars, voyez. Donc, l'expression, et vous voyez, nous sommes conduits ici de la bouche vers le cœur. Vers le cœur. C'est un genre hors texte, pourrait-on dire. C'est jamais garanti par le texte, par la lecture. La lecture ne peut pas garantir ça. Ça passe par l'écoute effective du cœur. Et c'est chaque fois un événement, voyez, un événement de Dieu. Et donc se manifeste le désir, et à ce moment-là, on est prêt pour les deux sacrements que Luther accentue, et qu'il connaît aussi la pénitence, c'est la parole de l'institution et le baptême. Donc c'est à ce moment-là le corps qui est atteint, et le pain et le vin, la nourriture. Comme il dit, trésor offert grâce aux paroles saintes par le cœur et pour le cœur. Trésor offert. Voilà, alors on va reprendre, si vous voulez, à la page 59 de votre dossier. de reprendre rapidement les derniers éléments. Alors, je disais à l'instant, c'est le cœur qui est le siège, le cœur nouveau, hein, la promesse de Jérémie, le cœur nouveau qui est le siège véritable, lieu d'intelligence et d'affectivité, qui est le lieu véritable de la mutation de l'être humain, jamais acquis une fois pour toutes. Le centre de l'expérience, et j'ai énuméré ici quelques petits points, lieu où se forme d'abord l'image de Dieu, oui, quel est en Dieu ? Quel est en Dieu, l'idole ou le vrai Dieu, la foi, lieu où se découvre le déchirement du péché, lieu de la foi où s'opère la justification du pécheur par le Fils, lieu où l'Esprit Saint surgit pour donner accès au Fils et au Père. Esprit, vous voyez, alors ça c'est une belle formule, qui est augustinienne. L'Esprit, quelle est son œuvre dans le cœur humain ? L'Esprit donne envie d'observer les commandements. Tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est ça la véritable mutation. Donner envie d'observer. Le plaisir du bien. Vous vous rappelez, j'avais déjà parlé de ça avec Augustin. C'est finalement, et je l'ai souligné ici en italique, le point le plus important, le lieu d'un combat continu où l'homme se découvre en même temps, le célèbre Simul, en même temps pécheur ou homme déchiré et justifié, qui est donc, retenez bien cela, l'adage de la théologie luthérienne, le Simul peccator et justus. Simul peccator et justus. En même temps, pécheur et justifié. L'adage qui désigne donc, si vous voulez, cette bataille entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et les deux coexistent, dit Luther, dans notre existence. Donc on ne peut pas faire d'abord, c'est ça l'enjeu, une sorte d'anthropologie générale, vous voyez, l'être humain indépendamment de la parole de Dieu, ce qui posera d'ailleurs énormément de problèmes dans la suite, dans le débat luthéro-catholique, et qui expliquera pourquoi les catholiques insistent à ce moment-là sur l'homme naturel, nature et surnaturel. Ça n'existe pas pour Luther. Pour Luther n'existe que l'homme ancien, déchu, et l'homme nouveau. Et donc, les deux coexistent en même temps, dans une lutte continuelle. Alors, la notion de désir intervient ici. Donc, vous voyez, ça c'est une vieille notion, le psaume, c'est-à-dire comme un cerf désaltéré. C'est une notion qu'on trouve évidemment chez les pères, qu'on trouve chez Origène, notamment chez Augustin dans ses commentaires de psaumes. Toute la mystique médiévale, Saint Bernard, utilise ce terme central jusqu'à la psychanalyse, aujourd'hui, évidemment, toujours la notion de désir. Comme lieu ultime de concentration et sur lequel on ne peut pas mettre la maîtrise. Les désirs est le lieu le plus intime de l'homme qui devrait lui appartenir en propre et qui lui échappe radicalement. Donc ça, c'est l'accentuation de Luther. Il y a quelque chose de l'inconscient, n'est-ce pas ? Il lui échappe radicalement, le désir. Précisément quand qu'il arrive à la conscience de lui-même, hein, il se découvre plutôt comme homme jugé, sans désir. Et il découvre le désir, voilà, au moment où il entend la voix évangélique de l'extérieur, la viva vox evangelii. Et c'est là où il se découvre comme homme désirant, sur la croix. Voilà. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton paradis. Alors, cette magnifique citation du grand catéchisme. Tu vois donc, nous demandons pas ici une mince aumône ou un bien temporel et périssable, mais un trésor éternel et surabondant et tout ce qui est au pouvoir de Dieu lui-même, ce qui est beaucoup trop grand qu'un cœur humain ose mettre dans l'idée de le désirer. Si Dieu lui-même n'avait pas commandé de le demander. Voyez, on revient point de départ. On a quelques belles oraisons dans l'Eucharistie qui disent cela, n'est-ce pas ? Mais parce qu'il est Dieu, il veut aussi avoir la gloire de nous donner beaucoup plus abondamment que tout ce que nous pouvons comprendre, lui qui est une source éternelle et intarissable, voilà, ça c'est le mystique luthérien, une source inépuisable, intarissable, qui plus elle s'écoule et elle se diverse, plus elle donne encore. On trouve quelque chose ici du pseudo-déni, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, voilà. Alors, j'ai parlé déjà des sacrements. Il y a donc, pour résumer un peu les choses, il y a donc, si vous voulez, un double mouvement dans le catéchisme. Il y a à la fois un mouvement linéaire, mais qui est le mouvement de la lecture, le mouvement pédagogique. Et à chaque moment peut se produire l'imprévisible. L'imprévisible, c'est-à-dire l'événement de l'écoute, l'événement de la foi. Donc ça, c'est le mouvement circulaire de concentration, je reviens à ce terme, faisant alors ressortir le cœur de l'expérience de la foi. Et je le redis à propos du désir, ça vaut pour l'ensemble, il y a un terme que je vous ai mis sur le schéma, y revenez rapidement, la page 175 du schéma, ce qu'on appelle le « extranos ». Vous voyez, dans le catholicisme, l'institution est essentiellement sacramentelle. C'est les sacrements. Dans le luthéranisme, l'unique institution, c'est les Écritures. C'est l'institution, c'est le texte qui est l'institution. Le texte. Et donc le texte est hors de nous, c'est une idée très moderne. Le texte est hors de nous, on ne peut pas le manipuler. Et donc, le texte est le signe de l'extradance de la parole de Dieu. Il symbolise ça. La voix doit venir de l'extérieur. Je ne peux pas me la donner. La voix de la justification qui me pardonne, la voix écoutée par le bon larron, elle doit venir de l'extérieur. Et donc le désir et l'expérience est finalement sorti de soi. L'extase. Qu'est-ce que c'est l'extase? Pas au sens, si vous voulez, je dirais, érotique, je dirais, du terme ici, même s'il y a quelque chose de l'ordre du léros, Luther retrouve ici le cantique des cantiques. C'est la sortie de soi qui conduit l'homme vers le plus profond de lui-même. Donc il doit d'une certaine manière, et ça c'est la fonction de la prédication, habiter la parole même de Dieu, sa voix. Et à ce moment-là, il devient être désirant, il est hors de lui-même, en lui-même. Il est hors de lui-même, en lui-même. Voilà la concentration. Alors, dernier élément, pour terminer donc notre parcours luthérien, c'est donc maintenant la question de la rédemption comme substitution. Donc là, on revient à la page 60-61 de votre polycopié. Et donc un peu sous forme de zoom, les 5 points, je commence par le plus général et je précise progressivement. Donc concernant ce rapport entre lui, le Christ, et nous, entre le Christ et le bon larron, vous voyez cette concentration. Entre lui et nous. Premièrement, Luther pense l'œuvre de la rédemption comme saint Augustin, mais de manière radicalisée, à partir et dans l'expérience de la grâce et de la justification. Vous vous rappelez, c'était le contraire par rapport à Anselme qui a commencé par l'objectivité de l'œuvre du Christ, la satisfaction. Donc on revient ici, voyez, au point de départ à partir du sujet. Alors, la radicalisation, qu'est-ce qu'elle est ? La situation de l'homme est si désespérée, il ne peut, s'il compte sur ses propres forces, il ne peut que se condamner lui-même et se donner perdu. Donc ça c'est le récit de la conversion de Luther que nous avons entendu, qu'il n'y a qu'une seule sortie, la porte est étroite, une seule sortie. Dieu doit prendre la place de l'homme. Dieu doit prendre la place de l'homme dans le Christ. ce qu'est la thèse de substitution. Vous voyez, la liberté est radicalement déchue. Donc vous avez ici, on va un peu y revenir dans la deuxième partie du cours, vous avez ici donc une théorie, une théologie de la du péché originel radicalement poussée au bout, radicalement déchue. Donc vous voyez, la médiation est uniquement descendante et pas ascendante, uniquement descendante. Voilà. Alors si on revient, comme je l'ai fait chaque fois, à la page 27 de votre polycopier, je vous invite chaque fois à le faire, même si on ne le fait pas en détail. Vous voyez, notre matrice, c'est quand même la matrice biblique. Et je disais déjà, Luther nous propose une interprétation de l'ensemble de la Bible à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui un canon, une règle dans le canon des Écritures. Et cette règle, ce centre, c'est l'Épître aux Romains, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Romains. Et même à l'intérieur de cela, il y a une radicalisation qui se produit. Donc, parmi les thèmes, c'est le deuxième de la thématique biblique multiforme. Je vous donne des citations. « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché. » Voilà la substitution. Jésus, quasiment pécheur. Je dis bien quasiment, nous allons voir pourquoi. Ou Galates 3:13, Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi. Et vous comprenez maintenant la malédiction de la loi, c'est-à-dire l'homme qui se juge lui-même jusqu'au bout et qui passe par cet enfer que Luther nous décrit dans son propre récit, crise de conscience radicale. Voilà. Devenant lui-même malédiction pour nous. Le Christ devenu malédiction pour nous. Et donc aussi la métaphore de l'agneau qui se lève et enlève le péché du monde. C'est nos souffrances qu'il portait. Voilà. Alors, comment comprendre ça, hein? Le déplacement, si vous voulez, par rapport à la patristique. Ça, c'est donc le point 4, et par rapport à Augustin. Donc, Luther reprend le thème patristique de l'admirable échange, l'admirable commercium, voyez. Dieu prend notre place pour que nous puissions prendre sa place. Voilà. Donc, échange. Mais dans la patristique, chez Augustin, n'est-ce pas, c'est modèle d'admirable commercium, donc la thématique 2, hein, n'est jamais poussé au point... Vous voyez que l'homme devient totalement inactif, vous voyez. Mais il y a l'idée d'échange, on va y revenir à la fin de cette partie, hein, qui est une très très belle idée et qu'il faudra pousser un peu plus loin, à mon avis, dans une économie du don aujourd'hui. Réfléchir un peu là-dessus, nous allons le faire. Mais voilà, selon Luther, le péché, hein, vous rappelez chez Augustin, le péché... c'était quelque chose uniquement de négatif, un moins bien, dans la suite de son combat avec le manichéisme. Le péché redevient ici une puissance. Une puissance. C'est-à-dire une puissance autodestructrice. C'est vrai, le péché est ça dans la Bible. Une puissance autodestructrice et qui se manifeste dans cette force. Se manifeste évidemment dans l'expérience de l'auto-jugement. Le jugement de l'homme sur soi-même et qui prend ensuite évidemment des effets dans la société. Le diable se révélant dans cette autodestruction de toute crise d'angoisse et d'incertitude de la conscience. Et c'est là le point essentiel d'un point de vue anthropologique. Le réformateur... privilégie ici la passivité radicale du Christ. C'est la passivité du Christ qui nous sauve. Le Christ se laisse prendre, attaquer et traîner dans les ténèbres de l'enfer. Certes, dit Luther ici, il n'a pas péché, vous voyez, c'est l'Épître aux Hébreux, en tout semblable aux hommes, sauf le péché. Mais le Christ, vous voyez, on entre presque ici dans une sorte de psychologie, dans l'expérience même du Christ. C'est ça que Luther essaie d'atteindre à travers cette approche expérimentale. Il est d'une certaine manière le premier de le faire, parce que toute la christologie contemporaine tente de faire cela autour de la foi du Christ. Qu'est-ce que c'est la foi du Christ ? Il n'est plus capable, certes, il n'a pas péché, mais dans la traversée de l'épreuve de la tentation et de la passion, il n'est plus capable de distinguer entre le péché du monde et l'absence du péché en lui. Il porte le péché du monde. Et c'est ça, les ténèbres, dont nous parle d'ailleurs Luc, Saint Jean, etc. Il se laisse traîner dans les ténèbres. C'est là son épreuve unique. C'est alors, vous voyez, je refais le chemin du catéchisme maintenant à partir du Christ. C'est alors, vous voyez, ce renversement, le passage à l'Évangile, c'est alors que le pour nous de l'œuvre de la rédemption se réalise, que l'humanité tout entière touche au Christ à travers le péché et que le Christ vit et subit. Vous voyez, c'est dans ce point, quand le Christ se laisse entraîner dans notre ténèbre, que se réalise le pour nous dans son universalité. Vous voyez, il se laisse atteindre par les ténèbres, et qu'il subit. Dans la plus grande passivité, il subit le péché du monde. Et c'est là où vient la formule, sa divinité se révèle sous le contraire. Sa divinité se révèle sous le contraire, qu'est-ce que cela veut dire? Elle se révèle précisément, la divinité du Christ, dans cette inouïe capacité de se laisser entraîné par sa compassion et par ce qu'il est jusqu'au bout dans les ténèbres de l'être humain. Donc c'est dans ce point du contraire de Dieu que se révèle sa divinité. Alors là, il y a une image classique qui revient sous sa formule. Vous pouvez lire ce que je viens de dire dans l'annexe 9. Je vous ai donné l'extrait à la page 176 jusqu'à 182. C'est un texte absolument magnifique sur la liberté du chrétien. Lisez ça, c'est l'image du Léviathan, voyez, de l'Ancien Testament, de cette bête originaire dans la mer, ce mythe, vous voyez, l'image du Léviathan attrapé par le crochet d'un dieu qui va à la pêche, à la ligne, voyez, et qui, au moment où la bête attrape et écrase l'appât, écrit Luther, c'est-à-dire le Christ, la bête est tenue en captivité par le crochet qui représente la divinité du Christ. Voilà, ça c'est une manière imagée chez Luther, biblique, bien sûr, de montrer ce qui s'est passé. Alors, un dernier mot pour terminer cette traversée, c'est la notion d'expérience. Maintenant, qui était au point de départ et à laquelle je reviens. Donc l'expérience spirituelle, sous sa forme luthérienne, vous l'avez une autre forme, sous la forme ignatienne à la même époque, thérésienne, voyez, il y a la devotio moderna, là je vous donne une forme un peu extrême qui éclaire évidemment l'ensemble de cette notion. D'un premier point de vue, Dieu est en dehors de toute expérience. Alors ça, c'est pris très sérieux, très au sérieux. Dieu, nul ne l'a jamais vu, en dehors de toute expérience humaine. Dans la mesure où il est d'abord, et Luther introduit ici un vieux terme, vétérotestamentaire, Deus absconditus, un Dieu caché. Ce qui se laisse expérimenter, c'est l'épreuve que je viens de décrire par deux fois, à la fois du côté de l'homme et du côté du Christ. Ça se laisse expérimenter, l'épreuve. Le perasmos, comme dit l'Écriture, voyez, ne conduit pas, on traduit à la tentation, n'est-ce pas? Donc l'épreuve, la traversée de l'épreuve se laisse expérimenter. C'est-à-dire, c'est une expérience, la puissance du péché du monde qui se déchaîne dans le jugement porté par l'homme sur soi, sur lui-même, dans le remords, la culpabilité autodestructrice, c'est-à-dire ce que Paul appelle la manifestation de la colère de Dieu dans l'intériorité de l'être humain, mais aussi sur le plan social de la société. Ça se laisse expérimenter. Et au cœur de cette expérience du Deus absconditus, du Dieu caché, aujourd'hui on dirait peut-être du Dieu absent, du Dieu absent, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, comme nous disent parfois les gens dans cette situation, apparaît subitement le Deus revelatus, le Dieu révélé, le Dieu qui se révèle dans la parole de la grâce qui résonne de la croix du Christ et s'adresse au larron pécheur qui se juge. Et ça, c'est, si vous voulez, toujours une expérience d'écoute. Une expérience d'écoute. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, sinon la croix. Sinon la croix. Mais ce qu'on peut entendre, c'est cette voix qui résonne subitement et que le monde ne peut pas retenir. Le monde ne peut pas retenir. Vous voyez, on est ici dans une sorte d'actualisme très radical qui vient du nominalisme, qui est poussé jusqu'au bout. Au fond, on peut dire qu'il y a deux points de vue au sein d'une même expérience. Deux points de vue, c'est une manière de réexpliquer les choses, donc c'est le simul en même temps. Deux points de vue, c'est-à-dire le point de vue sur le monde tel qu'il est, soumis à l'auto-jugement, et alors le regard, entre guillemets, sur le monde quand j'entends subitement la parole de Dieu, cette voix. Voilà, deux perspectives, et vient ici, je dirais, pour Pâques, pour la fête de Pâques, chez Luther, dans ses chorales, revient la séquence de Pâques, que nous connaissons bien, « Mors evita duelle, ou conflict sere mirando, dux vitae mortus regnat vivus ». La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Donc, le croyant n'expérimente ni la mort, ni la vie. Tant qu'il est vivant, il n'expérimente ni la mort, ni la vie, mais il fait l'expérience de leur combat. Alors, dernier petit mot ici. Luther, vous avez remarqué ça, surtout maintenant dans ce dernier point, accentue jusqu'au bout l'altérité de Dieu. C'est théocentrique, n'est-ce pas ? Radicalement théocentrique. L'altérité de Dieu, l'œuvre de Dieu, la descente, la venue de la parole, audible seulement comme une parole de promesse. Une parole de promesse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et en soulignant l'altérité, la profanité du monde livré au combat entre vie et mort pourra s'émanciper et se séculariser. C'est une autre manière d'introduire la sécularisation. Vous avez celle d'Anselme, que j'ai soulignée la dernière fois, avec « rachète-toi », vous vous rappelez de cette formule, et là, une autre manière, voyez, l'altérité radicale de Dieu, ce que nous voyons, c'est le monde. Et Luther va d'ailleurs introduire la théorie des deux règnes, le règne de la parole de Dieu. D'un côté, c'est le pasteur qui en est responsable, et le règne humain, le prince, etc., et plus tard l'État. Et on voit bien comment, j'ai dit ça un peu ici pour les Français, comment en 1905, quand il s'agissait de préparer la loi de la séparation de l'Église et de l'État, c'est en particulier les protestants du côté chrétien qui ont combattu pour cela. C'est pas uniquement une loi laïcarde, mais c'est une loi dans la spiritualité qui est derrière ici, au moins chez la fraction protestante. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on peut pas, Dieu n'est pas présent. Il est présent sous le mode de la promesse. Sous le mode de la promesse. Voilà. Alors, je me suis un peu attardé à ça, je suis conscient, mais je trouve dans un monde catholique ici en France, moi je suis allemand, j'avais une mère d'origine protestante, je trouve c'est très important qu'on entend un peu une altérité, une autre voix aussi en vue de l'œcuménisme. Donc, pardonnez-moi, j'ai parlé un peu avec passion parce que je partage quand même un tout petit peu cette expérience qu'on retrouve ensuite dans la grande musique, chez Bach et bien d'autres, qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas un peu cette anthropologie. Alors maintenant, j'espère avec autant de passion, le Concile de Trente. Le Concile de Trente, qui est un grand concile, qui est un très grand concile. Et donc, vous avez des cours là-dessus aussi. Patrick Goujon le commande régulièrement. Donc, moi, je prends uniquement l'aspect proprement théologique et pastoral. Vous avez un très bel ouvrage, Sauvé par grâce, les débats sur la justification du 16e siècle à nos jours. Il faut s'appeler Bernard Cesboué pour faire ce genre de travail. Voilà. Alors, deux problèmes tout de suite, comme une sorte d'avertissement. C'est la question du vocabulaire. La question du vocabulaire. Nous ne mettons pas la même chose derrière les mots. Et c'est tout le problème vient de là. Donc il faut chaque fois s'expliquer sur les mots. Les catholiques définissent la justification dans le chapitre 4 du décret sur la justification. Et vient maintenant la définition, je vous les reproduis ici, et je vous dis tout de suite, vous trouvez le décret à la page 183, 184 suivant, l'ensemble du décret, c'est le numéro 10 de l'annexe. Je le redis, si on veut suivre ce cours avec un peu de fécondité, il faut vraiment que vous lisiez les textes d'Augustin, Saint Anselme, les textes que je vous ai donnés, les textes de Luther, quatrièmement, le texte de Trente, et cinquièmement, la constitution Gaudium et Spes. Voilà. On n'échappera pas en théologie à ça. Sinon, on répète simplement, je dirais, un catéchisme un peu réduit, qui n'est même pas le catéchisme luthérien. Donc, il faut vraiment travailler cela. Donc, je vous invite et je vous donne des guides de lecture pour lire cela. Alors, problème de mots. Le décret définit le mot « justification » comme passage ou transfert, ce sont les mots, de l'état dans lequel l'homme naît, fils du premier Adam, à l'état de grâce. Ah, ça nous fait penser à Jeanne d'Arc, est-ce que vous êtes en état de grâce ? À l'état de grâce et d'adoption de fils et de filles de Dieu par le second Adam, Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyez, c'est une définition rigoureusement anthropocentrique et qui annonce déjà ce que va devenir Gaudium et Spes, le passage d'un état vers un autre. Pour les luthériens, la justification désigne avant tout un acte généreux de la souveraineté de Dieu. Fermez les guillemets ici. Donc c'est une perspective rigoureusement théocentrique. Donc ça c'est une première différence. Donc on désigne, et c'est ça le problème, qui a été résolu, il faut bien le dire, par l'accord entre les luthériens et les catholiques en 1999, signé à Augsbourg le 31 octobre. Deuxième difficulté. Derrière deux mots différents, il y a deux perspectives sotériologiques différentes. Qui, disons-nous aujourd'hui, ne s'exclut pas nécessairement, heureusement. Et c'est le fruit du travail œcuménique, j'y reviendrai tout à l'heure. Les luthériens insistent non seulement sur l'idée de souveraineté de Dieu, c'est là où il y a la différence, mais c'est ça qu'il faut repérer, sur la rupture qui constitue l'événement de la justification, qui est de l'ordre de l'irruption. La justification est de l'ordre de l'irruption. c'est un événement. Il y a une rupture, une discontinuité entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Je viens de l'exposer longuement. Les deux sont en combat. Et il n'y a pas de passage continu d'un état vers un autre. Alors, les catholiques sont sensibles au devenir de la justification. Et ils introduisent tout de suite plusieurs temps, la préparation. Vous voyez, aujourd'hui, c'est très important, la préparation au baptême. Le catéchuménat, ça c'est le concile de Trente, le décret sur la justification. L'événement appelé rédemption, rédemption et justification sont déjà le début, troisième temps, de la sanctification qui se vit pour le chrétien au quotidien. Et s'insinue ici de nouveau l'idée de pédagogie. La pédagogie de la foi. Alors, je ne dis pas que chez Luther c'est absent, le catéchisme c'est le contre-exemple, c'est pour ça que je l'expose. Mais voyez, ça fonctionne tout à fait différent. Il y a une rupture et une émergence qui est fortement soulignée. Alors, les catholiques sont, je dirais, des femmes et des hommes de la continuité, souvent. Et donc, il y a deux perspectives qui ne s'opposent pas à mon avis, qui sont quelque part à articuler. Alors, comment on va faire? Si vous voulez, il y a trois points de nouveau. D'abord, je dirais, le noyau, l'expérience fondamentale du salut. Ensuite, évidemment, ce que j'appelle l'itinéraire du salut, le devenir. Vous voyez, là, je relis déjà le décret dans une perspective actuelle, comme toute cette partie. Hein. Et ensuite, le sacrifice du Christ, c'est-à-dire comment est traité le Christ. On n'est pas dans la substitution, évidemment, pas du tout. Alors, d'abord l'expérience fondamentale. Le décret de Trente fait preuve, j'appellerai ça comme ça, d'une très grande humanité. C'est l'humanisme qui est derrière, ou un type d'humanisme, et d'un véritable sens pastoral. C'est un concile pastoral. Clairement mise en œuvre, bien qu'il mette toute la bonne volonté, on le voit mieux aujourd'hui, à tenir compte des insistances spécifiques de Luther. Et donc tout de suite, à la fois le point, je dirais, de divergence en ce qui concerne l'expérience, et peut-être quand même le point de convergence, même sûrement. Le sens pastoral se cristallise dans la notion de coopération humaine. Coopération humaine. Alors, qui est la bête noire de Luther. Et au salut, la coopération humaine au salut, c'est dans le décret, c'est le chapitre 10, et que le texte tire de la lettre de Saint Jacques, qui est pour Luther, évidemment, l'épître de paille, comme dit, avec lequel il peut rien faire. Donc, le chapitre 10. Ainsi, les justifiés, devenus amis de Dieu et membres de sa famille, alors c'est plein de textes d'écriture, c'est ça aussi qui est très beau. Le concile de Trente, incité par Luther, tente réellement de fonder les choses sur l'écriture. Marchant de vertu en vertu se renouvelle, comme dit l'apôtre, de jour en jour. Donc, vous voyez, de jour en jour, donc la progression. C'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair et en les offrant comme des armes à la justice pour la sanctification par l'observation des commandements de Dieu et de l'Église. Ils croissent dans la justice qu'ils ont reçue par la grâce du Christ. Et maintenant vient la citation de Jacques, la foi coopérant aux bonnes œuvres. Et ils sont justifiés davantage, comme il est écrit, alors l'Apocalypse, etc. Donc, vous avez ça à la page 185-186 de votre dossier. Je ne vais pas vous faire envoyer chaque fois maintenant au texte. Je vous laisse vraiment le lire avec le guide que je vous donne. C'est précisément cette notion qui pose des difficultés presque, insurmontables aux luthériens. Et c'est là-dessus que le conflit s'est enflammé et a duré jusqu'en 1999. Voyez. Le problème étant précisément, le luthérien voit toujours dans la notion de coopération une menace de la souveraineté de Dieu. Une menace de la souveraineté de Dieu. Comme si, vous voyez, il y avait une partie du côté de Dieu et une partie de l'homme. Mais si la situation de l'être humain est tellement désespérée, l'homme ne peut pas coopérer. Vous voyez, la substitution intervient ici. Le point est bien trouvé, vous voyez, et on voit bien, c'est aussi une question d'interprétation des Écritures qui est en jeu. Mais, tout de suite, le point de convergence, vous avez en même temps l'insistance avec Luther sur l'événement même de la justification en sa pure gratuité. Convergence, la convergence des deux perspectives se trouve dans les chapitres 7, 8 et 9 du texte. Alors, je ne vais pas vous tout lire tout, mais je vous donne ici un peu la clé et je vais quand même lire un passage. Donc, ce sont les trois numéros, 7, 8 et 9, qu'il faut vraiment regarder de près, parce que c'est là où les deux perspectives convergent. Heureusement. Donc, 7 parle... C'est ça qui est peut-être difficile pour nous. Un langage scolastique, c'est-à-dire ce qui est le langage des causes. Il faut savoir, à côté de l'écriture, pendant le Concile de Trente, comme il est de coutume, il y a toujours l'écriture qui préside à un concile, comme à Vatican II, comme à Nicée, mais les pères de Trente ont mis la somme théologique à côté. Vous voyez, ça c'est le rappel de la tradition. Et donc, la théorie des causes. Alors, je vous laisse lire ça. Les causes, pourquoi? Parce que on ne peut pas saisir le moment, l'aujourd'hui est insaisissable. Le moment de la justification est insaisissable. C'est ça le point de commun avec Luther. Insaisissable. C'est la pure gratuité. Et donc, le langage des causes est là, si vous voulez, je dirais, un langage abstrait pour dire d'une manière abstraite ce qu'on ne peut pas dire. Dire d'une manière abstraite de le désigner ce qu'on ne peut pas dire concrètement. Parce qu'on ne peut pas, dans un processus continu, on ne peut pas, je dirais, isoler, on peut dire, il est là le moment de la rédemption, mais on ne peut pas l'isoler, vous voyez. On peut pas dire, d'abord, j'étais pas justifié, et, ah, maintenant, c'est le moment. Et maintenant, c'est le passé. Donc, vous voyez, c'est difficile d'exprimer ça. D'où ce langage abstrait. Alors, tout de suite, le numéro 8 parle le langage biblique. Quand donc l'apôtre, c'est ça que je voulais vous lire, dit que l'homme est justifié par la foi, et gratuitement, Romains 3, 22 et 24. Ces mots sont à prendre dans le sens que l'Église catholique a toujours et unanimement tenu et exprimé, à savoir que nous sommes dits justifiés par la foi, parce que la foi est le commencement du salut de l'homme. Le fondement et la racine de toute justification, et maintenant Hébreux 11, 6, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et de parvenir à partager le sort de ses enfants. Nous sommes dits justifiés gratuitement, parce que rien de ce qui précède la justification, foi ou œuvre, ne mérite cette grâce de la justification, car si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. C'est toujours des citations de l'Épître aux Romains. Autrement, comme le dit le même apôtre, la grâce ne serait plus la grâce. Donc vous voyez là, c'est magnifique. C'est Luther qui aurait pu écrire ça. Donc là, il y a le point de jonction, le numéro 8. Il y a une manière de comprendre cette gratuité absolue, et c'est là où vient un point tout à fait décisif, une sorte de discernement, maintenant. J'introduis ici maintenant la notion de discernement qui est peu présent chez Luther, et qui est liée à la question de la pédagogie, un discernement. Il y a une manière de comprendre cette gratuité absolue de l'initiative divine qui risque de devenir inhumaine et de la détourner du même coup du vrai sens de Dieu. Et c'est précisément le numéro 9 que je vous laisserai lire qui opère ce discernement subtil. Et il y a une expression un peu polémique contre les hérétiques, Luther n'est pas nommé, mais derrière cette polémique se cache quelque chose de très juste et qui est très pris au sérieux, par exemple, dans les exercices spirituels d'Ignace. Premièrement, le cas d'une confiance en Dieu, donc gratuitement, absolument gratuitement, et donc la foi comme une confiance en Dieu qui risque de devenir une fausse certitude parce qu'elle ne s'inscrit pas véritablement dans le temps et dans l'histoire. Vous voyez, le catholicisme sera ici plus sensible au temps. Comment ça se déploie dans le temps, cette expérience absolument unique? Donc risque de fausse certitude. Alors, soit je dirais le spiritualisme, c'est-à-dire on parle de la gratuité absolue et ça ne touche pas terre, c'est-à-dire notre temps, soit l'expérience de la démission, qui est possible aussi. Bon, de toute façon, je suis sauvé gratuitement. Alors, je ne dis pas ce que c'est chez Luther, mais Trent discerne ce risque. Alors ensuite, deuxième cas que vous trouvez, le cas d'une confiance psychologique, donc la différence entre le psychologique et le théologal. Le théologal de la foi est inscrit dans le psychologique, mais il n'est pas à identifier avec le psychologique. Le psychologique, c'est-à-dire le cas d'une confiance psychologique qui ne résiste pas à l'épreuve. Quand je suis dans l'épreuve, je perds la confiance, psychologiquement. Si cette confiance est ébranlée dans les situations difficiles de la vie, c'est le salut lui-même qui risque d'être menacé, dans ma conscience. Et d'où la nécessité, ça c'est le Concile de Trente, d'insister sur l'objectivité du salut. L'objectivité du salut, qui ne dépend pas d'un état psychologique. Ça, c'est la résistance ou la réserve, disons, plutôt par rapport au récit de conversion de Luther. Est-ce que l'écriture suffit pour donner cette objectivité? Donc, c'est là où le Concile de Trente insiste beaucoup sur les sacrements et sur l'institution ecclésiale à cet endroit-là. Au contraire, il peut être nécessaire à un moment donné de passer d'une confiance psychologique à une foi où rien n'est ressenti. Saint Jean de la Croix insistera beaucoup là-dessus. Une foi où rien n'est ressenti. On trouverait la même chose aussi chez Ignace. Toute augmentation de foi, d'espérance et de charité. Enfin, ça suffit. Comme consolation, qui n'est pas une consolation psychologique. Une foi qui, alors ça c'est très important, qui continue à s'interroger sur la grâce. Ça c'est le procès avec Jeanne d'Arc à Rouen. Est-ce que vous êtes en état de grâce? Si je le suis, la réponse est unique. Hein. Si je le suis, que Dieu m'y garde. Si je ne le suis pas, qu'il m'y mette. Vous voyez, cette sorte de inquiet, non, sans repos est notre cœur, Saint Augustin, jusqu'à ce qu'il repose en toi. Donc, vous voyez, on est ici dans l'histoire de l'être humain. Donc, vous avez ici la nécessité, dans ce numéro 9, d'un discernement affiné. Vous voyez, c'est ça qui s'ajoute d'une certaine manière à l'insistance sur la gratuité absolue que Trent partage avec Luther. Alors la clé pastorale, je termine par là, on va faire la pause, se trouve dans le numéro 10, qui va donc, à partir du numéro 10, on entre dans une nouvelle partie du décret, et qui va traiter du progrès spirituel. Vous voyez, quand vous insistez sur la discontinuité radicale entre l'homme ancien et l'homme nouveau et le combat quotidien, il n'y a pas vraiment du progrès spirituel. Alors, toute l'Antiquité, et même Paul vont insister, voyez la distinction entre le lait et chez Paul et la nourriture solide. Il y a un progrès spirituel après le baptême. Et donc, avec les numéros 11 et 16, on a donc l'importance de la motivation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Chez Luther, la motivation disparaît d'une certaine manière. La motivation, la question de la motivation. Qu'est-ce qui me motive? Quel est le moteur du progrès intérieur, spirituel? Certes, la vie éternelle est don de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est l'insistance de Luther. Mais l'expérience du désir d'une récompense. Voyez, le concile prend ici le langage très élémentaire. Une récompense. Voilà. De l'héritage reçu pour ceux qui entrent dans le royaume. Reste important et est un motif noble pour stimuler le progrès. C'est lié à la foi en un Dieu humain. Un Dieu humain. Désir, bien sûr, le concile est conscient de cela, le désir de récompense est totalement ambigu. Échange, mais il n'est pas de l'ordre du péché. Il n'est pas de l'ordre du péché. Ça, c'est les numéros 11 et 16. Ensuite, la difficile question de la prédestination. Alors là, le concile va dire la prédestination est le secret absolu de Dieu qu'il ne faut jamais anticiper. Oui, ce sera plus tard avec le calvinisme, le grand débat. Ni dans un sens, ni dans un autre. Négativement ou positivement. Donc, il faut lutter et contre le désespoir spirituel. Donc, s'éprouver comme prédestiné à l'enfer. Et contre une fausse certitude ou ce que le concile appelle aussi une fausse présomption. En toute façon, je dirais, Dieu mettra l'éponge, voilà, c'est fini. Vous voyez, on revient ici à quelque chose qui est chez Anselme. L'aventure humaine est trop sérieuse pour que Dieu puisse procéder ainsi. Et du coup, dernier mot, c'est la persévérance. Pas de fausse certitude, mais une crainte au sens biblique. La crainte qui est le commencement de la sagesse, au sens biblique, non au sens psychologique. Pour stimuler l'élan spirituel, ferme espérance, voilà. Bon, on va faire la pause, comme d'habitude, et on va rapidement terminer, parce que je voudrais encore ce soir un peu parler de Gaudium et Spes avec vous. Alors, je disais, le Concile de Trente est donc sensible au devenir de la justification, donc à l'idée d'itinéraire. Et en fait, on peut, si on regarde de près, de distinguer trois ou quatre étapes. Donc, l'avant, le commencement et la préparation, donc qui se perd souvent lointainement dans l'histoire de quelqu'un. L'instant même de la justification. Donc ça, c'est ce paragraphe dont j'ai parlé tout à l'heure, avec, je dirais, le vocabulaire de causalité, le numéro 7. Ensuite, l'après, ou le progrès dans la sanctification. Donc c'est le terme à distinguer de la justification. Et la persévérance jusqu'à la fin. Voilà. Donc on aura là, par exemple, aussi l'idée de l'extrême onction qui n'existe plus maintenant. Autrefois, le sacrement des malades était l'extrême onction, c'est-à-dire c'est l'accompagnement jusqu'à la fin, jusqu'à l'agonie. Alors, quelques éléments du parcours pour vous aider à lire. Donc, il y a une introduction et ensuite, il y a les les premiers numéros auxquels je reviendrai, parce que ce sont des numéros qui parlent de l'œuvre du Christ, donc le point C. Alors à partir de les numéros 5 et 6, il nous présente la préparation dans un langage très biblique, concret. Je vous donne les citations essentielles ici. Le cœur de la préparation est ceci. Ceux que le péché avait détournés de Dieu se disposent, donc la disponibilité, poussés et aidés par sa grâce, à se tourner vers leur justification en acquiesçant et en coopérant, c'est là où vient pour la première fois le terme, librement à cette grâce. Donc, j'ai souligné se détourner et se tourner vers. Donc, c'est au fond, je dirais, une reprise de la notion de conversion. Croyez en la bonne nouvelle, le règne s'est approché, convertissez-vous, détournez-vous et tournez-vous vers. Et donc, c'est l'œuvre de l'illumination de l'Esprit Saint. Donc, d'emblée, on fait appel ici à lui. Et c'est ici que surgit pour la première fois, je vous rends très attentif à ça dans les numéros 5 et 6, le paradoxe de la liberté et de la grâce. Et quand vous regardez bien le texte, c'est magnifiquement, magnifiquement dit, d'une manière biblique, grâce et liberté ne s'opposent pas. Donc, grâce et coopération ne s'opposent pas. L'action de Dieu et l'action de l'homme ne sont pas des contraires, mais l'action gracieuse de Dieu en l'homme renforce la liberté humaine. Ce qui deviendra un des grands axiomes de Karl Rahner. Vous voyez, plus il y a la relation à Dieu, plus l'homme devient libre. Donc la relation à autrui et la liberté croissent dans les mêmes proportions, vous voyez. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et vous, je vous invite vraiment à regarder ça, c'est magnifiquement dit dans le numéro 5. Le numéro 5 renvoie d'ailleurs implicitement au numéro 1, qui est une conséquence. Le péché originel ne détruit pas le libre arbitre, comme chez Luther. Je vous ai donné aussi le décret sur le péché originel, on y reviendra un peu plus tard, qui se trouve juste avant votre texte, parce qu'évidemment c'est lié à cette question. Le péché originel ne détruit pas le libre arbitre de l'être humain, il l'affaiblit et le dévie en sa force. Donc du coup, ne détruit pas la possibilité de l'être humain de se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Donc la conversion, mais toujours dans une logique de coopération où la grâce de Dieu et la liberté de l'homme ne sont pas en concurrence, au contraire. Le numéro 6 maintenant, donc c'est le numéro 5 et 6, montre comment Dieu travaille déjà en celui qui est en train de se convertir, en lui communiquant les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, et en lui permettant l'accomplissement des commandements, c'est-à-dire au fond, avant même la justification, l'existence éthique de l'être humain. Pensez au récit de la vie de Jésus, que j'ai dit sur le Deutéronome, l'existence éthique n'est pas annulée par le péché originel. Alors ensuite, deuxième temps, après la préparation, les numéros 7 à 9, c'est donc l'instant de justification. Je vais aller rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Pourquoi le langage abstrait des causes? Vous voyez, c'est ici que je l'ai noté. Parce que l'instant lui-même qui ne se confond pas avec le geste baptismal. Ah, ça, c'est important. Est insaisissable et indescriptible. Donc vous voyez que le catéchumène qui arrive au baptême, c'est pas le geste en lui-même du baptême qui est la justification. Les deux ne se confondent pas. Il y a quelque chose d'insaisissable dans cet événement de la venue de Dieu. Voilà. Parce que l'instant lui-même est insaisissable et indescriptible. Il se fond, parce qu'il se fond dans le processus. C'est pour ça que le langage de la causalité permet de garder que l'absolue gratuité de ce qui advient est sauvegardée. Oui. C'est ça la fonction de ce langage. C'est pas une explication, voyez. C'est pas une explication au sens, je dirais, scientifique du terme. Voyez comment quand vous décrivez un processus, je dirais la transformation, je dirais, de en gaz, n'est-ce pas, par exemple, la vapeur, etc. Donc vous pouvez décrire, utiliser des causalités et vous décrivez les choses et vous les expliquez. Il ne s'agit pas de ça. Le langage causal ici abstrait veut garantir la gratuité absolue de ce moment. Ensuite vient évidemment la vie quotidienne post-baptismale, l'accroissement de la justification reçue. Et vous voyez, le texte continue, hein, c'est un itinéraire qui nous est proposé. Les numéros 10 et 11 posent la question des œuvres de justice et reviennent donc à l'éthique. L'éthique à l'intérieur de l'événement de la grâce. 14 et 15 introduisent alors cette difficile question d'une deuxième pénitence, le sacrement de la pénitence, que Luther connaît aussi. Voilà, les psaumes de la pénitence, il les a commentés. Et il y a encore le numéro 13, je les mets à cet endroit-là, la route vers l'accomplissement ou le don de la persévérance. Fidélité, persévérance. Voilà donc l'itinéraire. Je crois que ça vous permettra de lire maintenant le texte d'une manière correcte. Alors, dernier temps, donc l'œuvre de la rédemption. Donc, on va maintenant vers l'expérience de la grâce dans l'histoire de l'être humain, vers le Christ lui-même. Donc, la notion clé est ici la notion de mérite. Et vous rappelez, n'est-ce pas, c'est une notion qu'on a déjà trouvée sous la plume d'Anselme. Mériter, liée à la notion de récompense. Alors le Concile, sur ce point, veut sauvegarder, c'est pour ça qu'il introduit cette notion, l'option libre entre le bien et le meilleur. Ce qui est déjà l'idée d'Anselme. D'Anselme. La liberté, ce n'est pas uniquement le choix entre le mal et le bien, mais c'est la question du progrès spirituel, du meilleur, du meilleur. Donc le Concile veut sauvegarder cette option et donc il pose la question de la motivation. Là, il y a une grande différence par rapport à Anselme. Anselme ne s'est jamais posé ce type de question sur la motivation. La motivation, le motif. Vous voyez, là, on revient à quelque chose, entre guillemets, de psychologique. Et elle est importante, hein, d'un point de vue pastoral. Avec donc l'idée de mérite et de récompense. L'enjeu ultime, c'est au fond celui-ci. C'est l'humanité de Dieu, pourrait-on dire. C'est l'humanité de Dieu. Dieu prend plaisir à ce que l'homme puisse s'élever et entrer dans une certaine réciprocité avec lui. Ça, c'était l'idée aussi d'Anselme. Voilà. La volonté de l'amitié de Dieu avec l'être humain, la réciprocité ultime. Et donc ça, c'est la promesse qui est faite. C'est la récompense, la récompense. Et donc l'offrande de soi, de l'être humain, est jugée comme hautement méritoire. Comme hautement méritoire. L'être humain qui met en jeu toute son existence. Ce n'est pas soupçonné comme une sorte d'orgueil secret, mais c'est hautement méritoire. Alors si vous lisez sous cet angle-là de nouveau le décret, je vous donne les quelques numéros. Donc d'abord le numéro 2, où vous trouvez donc l'œuvre du Christ décrit, la venue du Christ. Ainsi arrivait-il que le Père Céleste, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, après l'avoir annoncé et promis avant la loi du temps et du temps de la loi, à beaucoup de saints de Saint-Père, envoya aux hommes quand vint la bienheureuse plénitude des temps, le Christ Jésus son Fils, pour racheter les Juifs sujets de la loi, pour faire aussi atteindre la justice aux païens qui ne la cherchaient pas, et pour que tous reçussent la qualité de fils adoptif. C'est lui que Dieu a établi, victime propitiatoire en son sang, moyennant la foi pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Voilà, c'est la première description de cette œuvre à partir de l'Épître aux Romains, je dis un peu à la manière de Luther. Mais ensuite, dans le numéro 3, vient une distinction importante entre l'objectivité de la mort du Christ pour tous, universalité, et l'expérience du bienfait de son œuvre. L'expérience du bienfait de son œuvre. Donc, la rédemption est pour tous, voilà. L'universalité, l'épître de les tritopes pauliniens, Timothée, etc., Tite, surtout. Et en même temps, il y a une différence avec ceux et celles, voilà, qui expérimentent son œuvre, l'œuvre de Dieu, et qui entrent donc dans cet itinéraire de préparation, de justification, de croissance et de persévérance. Tous ne l'éprouvent pas, voilà. Ceux auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Ceux auxquels le mérite, donc vous voyez le terme mérite vient ici pour la première fois dans le texte et désigne donc le mérite qu'est l'œuvre du Christ lui-même. L'œuvre du Christ lui-même. Et vous avez aussi ici déjà le concept moderne de communication. Donc le mérite du Christ est communiqué. Alors ensuite le numéro 7, là vient donc la notion de cause que j'ai déjà évoquée, donc la cause méritoire de la mort du Christ, le Fils unique bien-aimé de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, qui alors que nous étions ennemis, à cause de l'extrême amour dont il nous a aimés, a mérité... De nouveau, troisième occurrence, notre justification par sa très sainte passion sur le bois de la croix et a satisfait pour nous à Dieu son Père. Voyez, il n'y a rien de la colère de Dieu ici. Hein. Donc ça, c'est très, très ancellien. Très ancellien. Et ensuite, vient au numéro 16, le fruit de la rédemption, la communication du mérite du Christ pour nous, donc la satisfaction dans le numéro 16. Voilà, j'ai dit de manière très 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 rapide, d'une manière un peu apologétique, je viens de faire ça, c'est-à-dire pour protéger, c'est-à-dire pour que vous compreniez bien la notion de mérite ici, et que vous ne la preniez pas au sens du sombre florilège. Ici, il n'y a rien de sombre de ce point de vue-là. Derrière la notion... Il y a toujours cette idée que la coopération humaine, et d'abord celle du Christ lui-même, est importante. C'est-à-dire, l'aventure humaine n'est pas uniquement une aventure négative, mais il y a dans l'être humain, déjà depuis la création, une force du positif, même si cette force du positif est atteinte et affaiblie par le péché originel. Alors, quelques remarques de conclusion, débat critique. Donc vous avez déjà remarqué ma manière de lire les deux, à la fois Luther et le Concile de Trente, qu'il y a une possible convergence entre la théologie luthérienne de la justification de Luther et celle du Concile de Trente. Et qu'on trouve dans cette grande déclaration... Luthéro-catholique d'Augsbourg, je vous ai donné ici la référence dans la documentation catholique. Voyez, c'est un texte assez long, je ne vous ai pas donné les détails. Et apparaît ici, d'abord quelque chose de tout à fait décisif, c'est la notion de consensus différencié. Il ne s'agit pas dans l'œcuménisme aujourd'hui d'annuler les différences, mais un consensus, et je vous ai montré sur quel point ce consensus peut être atteint, c'est-à-dire sur l'absolue gratuité du don de Dieu, et où il y a les divergences. Mais les divergences qui ne deviennent pas nécessairement des divergences qui justifient une séparation. Donc ça, c'est le point important. Consensus différencié. Je vous donne la citation du numéro 14. Il y a consensus dans les vérités fondamentales. Les différences dans les développements de certains points particuliers sont compatibles avec ce consensus. Vous voyez, c'est pas un consensus bon marché. Il faut constater la compatibilité des divergences avec le consensus. Consensus différencié. Et alors ensuite, je vous donne les 7 éléments de ce consensus différencié, la page suivante. Le développement de la compréhension commune de la justification. Premièrement, l'incapacité, le péché de la personne humaine face à la justification. L'homme ne peut pas s'auto-justifier. Ça, c'est la doctrine biblique. Il ne peut pas s'auto-justifier. Et vous avez ensuite, chaque fois, pour chaque petit chapitre, cette formule. Nous confessons ensemble, lorsque les catholiques affirment, etc., dans la compréhension luthérienne. Donc vous avez ensemble, et ensuite viennent les points de vue différents, et etc., et les points de vue différents sont chaque fois rapportés au consensus. Donc apparaît ici une nouvelle méthode, et au fond, un nouvel visage, pourrait-on dire déjà, de l'Église. Catholicité rimant avec œcuménicité. La justification pardonne les péchés et rend juste. La justification par la grâce, c'est une justification par le moyen de la foi. L'être pécheur du justifié, c'est-à-dire une fois que la justification est advenue, que devient notre péché ? Donc ce qui conduit vers la seconde planche du salut, c'est-à-dire le sacrement de pénitence. Loi et évangile, donc vous voyez cette dialectique luthérienne que je vous ai longuement exposée ce soir. Qu'est-ce qu'il en est de la certitude du salut et du discernement des subtilités humaines, vous voyez, pour le dire comme ça. Et finalement, les bonnes œuvres du justifié. Toutes les questions de controverse sont ici abordées et mises dans, si vous voulez, il fallait beaucoup de temps, une quinzaine d'années certainement, pour arriver à ce type de consensus différencié. En fait, ce que je vous ai présenté est déjà le consensus différencié dans ma manière de présenter Luther et le Concile de Trente. Alors, une difficulté reste pour le moment. Pour les luthériens, la doctrine de la justification représente le centre de l'Évangile. Comme ils disent, c'est l'articulo stantis vel cadentis ecclesiae, Luther, l'article qui fait tenir ou tomber l'Église. Donc, c'est vraiment le centre de tout. Les catholiques tiennent aussi, il faut presque souligner le aussi, à cet article de foi, mais l'intègrent dans un ensemble plus vaste. Le langage scripturaire est pluriel. Vous rappelez ma matrice, le premier chapitre de cette partie du cours. Il n'y a pas de canon dans le canon comme chez Luther. L'épître aux Romains, Galates. Jusqu'à une époque récente, le modèle de substitution est resté absent de la mentalité catholique. Le premier catholique, d'une certaine manière, qui l'a intégré, c'est Balthazar. On en dira un petit mot plus tard. Alors ça, c'est le deuxième point. Donc une difficulté qui reste et qui explique que le processus œcuménique continue. Alors ensuite, il y a aussi une différence spirituelle et pastorale qui reste, et là j'ajoute, elle doit pouvoir devenir féconde, cette différence. Il y a deux conceptions différentes de l'expérience humaine et spirituelle qui peuvent s'enrichir mutuellement. J'espère que vous l'avez un peu saisi quand même à travers mon approche, et qui conduit à des types de pédagogie différentes. La pédagogie tridentine n'est pas la pédagogie du grand et du petit catéchisme luthérien. Des insistances différentes. Donc, chez les luthériens, vous trouvez davantage souligné l'idée d'une lutte spirituelle entre vie et mort dans l'homme, sans qu'il y ait des passages et des progrès. Ça, ça relève de Dieu seul. Alors, l'insistance sur une pédagogie spirituelle qui connaît des étapes et des progrès chez les catholiques, sans anéantir par là, il faut toujours le souligner, la gratuité de l'initiative divine. Ce qui donne un rôle à l'Église, un peu différent, c'est-à-dire comme lieu de la vie chrétienne, on pourrait définir 30 n'a pas d'ecclésiologie, c'est Vatican II qui va avoir une ecclésiologie. Mais chez 30, il y a une ecclésiologie présupposée, évidemment. L'Église, comme lieu de la vie chrétienne où se communique la force du Christ, lieu centré dans le luthéranisme sur la pureté de la parole prêchée. Mais c'est pas tout à fait la même chose. La force du Christ se communiquant essentiellement par la vie sacramentelle et donc une vie spirituelle bâtie sur la notion de progrès spirituel, d'avancée. Alors l'enjeu actuel, c'est la rencontre effective, je dirais. Difficile dans un pays comme ici, qui reste dans sa structure fondamentale encore très catholique et très insensible aux spécificités luthériennes, protestantes. Voilà. Donc la rencontre effective des femmes et des hommes luthériens et catholiques, c'est-à-dire la rencontre de ces types d'humanité et des pratiques pastorales et pédagogiques correspondantes. C'est des lieux de grand enrichissement possible, à mon avis, à l'avenir. Et il faut ajouter immédiatement un point extrêmement difficile, c'est-à-dire nous vivons au XXIe siècle dans des sociétés amnésiques, très largement, où la plupart, je dirais, des chrétiens, même luthériens ou catholiques, ne savent plus très bien voilà, les différences. Ça, ça existe aussi. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème que j'aborderai un tout petit peu dans la suite. Alors, on va en venir maintenant. De nouveau, je vous demande un petit exercice, voilà, je dirais de tourner, je dirais un peu, je dirais une page, mais on va s'approcher maintenant de quelque chose que vous connaissez sans doute un peu davantage, c'est-à-dire l'ultime grande formulation de l'anthropologie chrétienne, c'est celle de Gaudium et Spes, et qui va pousser, si je puis dire, la notion d'expérience qui nous accompagne depuis le XVIe siècle jusqu'au bout. D'où le titre, le sous-titre, l'idée de Vatican II, le désir de Vatican II, c'est d'inscrire le salut dans l'histoire de l'humanité. Donc là, avec force, c'est les aspects collectif, maintenant, politique aussi, de toutes sortes, nous allons rapidement le voir, qui vont émerger. Donc ça, c'est l'insistance, si vous voulez. Alors, le texte, je note ça historiquement, ici rapidement, nous devons un peu son émergence au cardinal Sunens, soutenu par Montini, le cardinal Montini, qui est devenu Paul VI. Et c'est au fond, je dirais, l'idée d'avoir deux textes sur l'Église, l'Lumen Gentium, comme on disait à l'époque, Sunens et Montini, ad intra, tourné plutôt vers l'intérieur et Gaudium et Spes vers l'extérieur. La constitution pastorale fondait précisément ce lien entre intérieur et extérieur sur une anthropologie. Ça, c'est l'idée. Fondée sur une anthropologie. Une anthropologie chrétienne, mais une anthropologie chrétienne, nous allons rapidement le voir, qui ne veut pas rester insulaire, mais qui s'inscrit précisément dans une anthropologie historique. Voilà, si vous voulez, Gaudium et Spes. Donc, l'invitation de nouveau réitérée de lire ce texte. Et là, voilà. Je ne peux pas le faire à votre place. Alors, je vais procéder de la manière suivante. On va regarder au moins ce soir très rapidement la structure organique et l'enjeu du texte. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, vous voyez, vient une anthropologie théologique. Et la deuxième partie, Gaudium et Spes, a deux parties. C'est le discernement anthropologique dans l'histoire contemporaine. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, la structure. Il y a d'abord une préface et une note tout à fait décisive dans le texte. Je cherche le... Vous ne l'avez évidemment pas dans le dossier. Voilà. Gaudium et Spes. Donc, il y a une préface qui définit la signification et le contenu du mot pastoral. Vous voyez, c'est revenu avec le synode, sous des formes malheureusement beaucoup trop rudimentaires, avec des jeux d'opposition avec lesquels le concile voulait finir entre le doctrinal et le pastoral. Malheureusement. Voilà. Mais bon, la culture théologique, même de nos évêques, n'est pas toujours à la hauteur du moment présent. Malheureusement, il faut le dire. Je ne suis pas le seul de dire ça. Hein. Voilà. Alors, vous avez donc dans le numéro 1 ce magnifique préambule, et ensuite dans le numéro 2, paragraphe 1, on vous parle de la relation de l'Église et de la société. Et il s'agit donc, dans l'ensemble du texte, de la Constitution, de la présence et de l'action de l'Église dans le monde. Présence et action. Faut pas oublier, c'est pas la même chose. Présence, c'est un magnifique terme, être présent. C'est le présent qu'on peut offrir à quelqu'un, d'être présent. Et l'action. Et le cadre... Je vous ai donné ici des citations. Le monde que le Concile a ainsi en vue est celui des hommes. La famille humaine tout entière, avec l'univers au sein duquel elle vit. Alors, c'est le théâtre où se joue l'histoire. L'univers est le théâtre où se joue l'histoire. Ça, je suis pas sûr qu'on pourra le dire aujourd'hui comme ça. Vous voyez, il n'y a pas un mot, évidemment, sur la question écologique. Donc, Gaudium et Spes. C'est la grande différence par rapport à nous. On va y revenir. Alors, le numéro 3. Il y a donc deux partenaires qui entrent, le grand terme de Vatican II, en dialogue. Mais il s'agit davantage encore d'une collaboration, c'est le terme utilisé dans le paragraphe 2. Et ça suppose deux perspectives différentes sur une même réalité humaine. Il y a une même réalité humaine, une anthropologie générale, pourrait-on dire, qui va être d'ailleurs exposée, et qui sera éclairée, ça c'est l'autre perspective, celle que l'Église apporte par l'Évangile. L'enjeu de l'échange et de l'action pastorale est l'homme. L'homme. Ou comme dira le texte un peu plus loin, il s'agit de sauver l'homme. Il s'agit aujourd'hui, ça c'est l'actualité du texte. Vous voyez comment le terme de salut se met tout d'un coup ici à bouger. Il s'agit de sauver l'homme. Ça c'est effectivement une question qu'on peut entendre aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'homme survivra dans la situation qui est la nôtre? C'est en effet l'homme qu'il s'agit de sauver. La société humaine a nouveau concept, vous voyez, qu'on n'a pas entendu à Trente, ni chez Saint Anselme, ni chez Augustin, etc. La société, voilà, humaine. L'homme considéré dans son unité et sa totalité, l'homme corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté. Vous voyez, tous ces termes classiques viennent seulement en second lieu. On vous a parlé d'abord de l'homme dans la société. Et donc, une perspective, double perspective, à la fois profane et théologique, qu'il faut maintenir. Société, Église. Paragraphe 2. Nouvelle approche, donc vous avez trouvé ici une nouvelle approche du salut par le concept, alors ça c'est la nouveauté radicale ici de Vatican II, un nouveau concept, le concept de vocation de l'homme. C'est là où se fait le lien. C'est le concept qui permet de faire le lien entre une vision profane de l'être humain et l'éclairage chrétien et évangélique. C'est la notion de vocation humaine. Alors, je rappelle ça toujours à nos services de vocation dans nos diocèses. Il n'y a pas uniquement la vocation presbytérale et religieuse. Il y a à l'arrière-plan d'abord la vocation commune de tous les chrétiens, la vocation baptismale, dit le Concile Vatican II. Et il y a même, n'oublions pas, d'abord et avant tout, la vocation humaine. L'aventure humaine des femmes et des hommes que nous sommes. Ou comme on l'a dit aussi, notre métier d'homme. Voilà, c'est ça qui intéresse le Concile. La vocation humaine. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme, et en affirmant qu'un germe divin a été déposé en lui. Voilà le point de jonction entre l'anthropologie profane et l'anthropologie théologique. Cette notion de germe divin en tout être humain. Alors le but pastoral, donc on est toujours dans ce numéro 2 et le numéro 3, continuer le but pastoral sous l'impulsion de l'Esprit Consolateur, l'œuvre même du Christ. Ah oui, on commence à rentrer dans l'itinéraire du Christ ici. L'œuvre du Christ, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, on cite ce texte de Matthieu, pour servir, non pour être servi. Vatican II, je le rappelle, connaît pas d'anathème. Pour réaliser ce but pratique, donc il s'agit d'une action, il faut une théorie, une anthropologie. Donc, vous voyez, le but premier, c'est le but pastoral, dans l'échange, le dialogue et la coopération entre l'Église et la société, l'Église étant dans la société, continuer l'œuvre du Christ, sauver l'homme avec le Christ. Pour cela, il faut une théorie qu'on appelle anthropologie. Alors, je vous ai mis tout entier la note qui est accrochée à la préface. La constitution pastorale, l'Église dans le monde de ce temps, si elle comprend deux parties, constitue cependant un tout. On l'appelle constitution pastorale parce que s'appuyant sur des principes doctrinaux, elle entend exprimer les rapports de l'Église et du monde, de l'Église et des hommes d'aujourd'hui. Enlevez la parenthèse ici, là. Les guillemets, je veux dire. Aussi, l'intention pastorale n'est pas absente de la première partie, ni l'intention doctrinale de la seconde. Donc, vous voyez, les deux sont intimement articulés, d'où la difficulté d'entendre une phrase comme celle-ci. Ah non, on va parler du mariage, mais on ne va pas parler de la doctrine, on va parler de la pastorale. Vous voyez, les deux sont intimement liés. Il n'y a pas de pastorale sans doctrine et pas de doctrine sans pastorale. Maintenant vient l'articulation. Dans la première partie, l'Église expose sa doctrine sur l'homme, sur le monde dans lequel l'homme est placé, et sur sa manière d'être par rapport à eux, l'Église. Dans la seconde, elle envisage plus précisément certains aspects de la vie et de la société contemporaine, et en particulier les questions et les problèmes qui paraissent à cet égard revêtir aujourd'hui une spéciale urgence. Il s'ensuit, ça c'est important, que dans cette dernière partie, les sujets traités, réglés par des principes doctrinaux, ne comprennent pas seulement des éléments permanents, mais aussi des éléments contingents, historiques, aujourd'hui. On doit donc interpréter cette constitution d'après les normes générales de l'interprétation théologique, en tenant bien compte, surtout dans la seconde partie, ça ne veut pas dire exclusivement dans la seconde partie, aussi dans la première, des circonstances mouvantes qui, par nature, sont inséparables des thèmes développés. Voyez, la doctrine devient ici historique. Elle est située dans l'histoire, dans un jeu relationnel qui a toujours existé, entre les chrétiens et la société qui est historique. Pensez à ce que j'ai dit sur la païdéia, par exemple. Alors, comment comprendre cette articulation? Alors, il y a trois niveaux d'articulation et qui sont hérités, ça c'est très intéressant, on le remarque pas souvent, de la pédagogie. Je reviens à la pédagogie, la païdéia, là il s'agit de la pédagogie de l'action catholique, c'est-à-dire les trois étapes, voir, juger, et agir, le discernement des signes des temps. Alors, dans la suite, vous voyez, on peut aller assez rapidement. Là, on a la structure, donc maintenant, du texte, la page 66, 67. Donc, d'abord le voir, et vous avez ici une nouveauté extraordinaire, ce qu'on appelle, à partir du numéro 4, l'exposé préliminaire, dont le titre est « La condition humaine dans le monde d'aujourd'hui », avec une démarche inductive. Inductive. Il s'agit de voir. Et ce chapitre, si je puis dire, signale d'emblée l'enracinement historique et contextuel de l'être humain. La condition, c'est la condition de toute anthropologie de repérer cela. Voir. Alors, comment ça fonctionne? Donc, cette démarche inductive, donc, de nouveaux guides de lecture, qui va de l'histoire vers la doctrine. Donc, on part de l'histoire, sous le signe, les mots-clés, de la mutation et du paradoxe. Mutation et paradoxe. D'abord, numéro 4-5, ce qu'on appelle la modernité, le mot n'est pas utilisé, mais si vous regardez de près, vous trouvez la chose, la mutation profonde des conditions de l'être humain aujourd'hui, donc on est en 65. Ensuite, des changements d'ordre social. Ensuite, des changements psychologiques, moraux et religieux. Ensuite, les numéros 8 et 9, des déséquilibres et des aspirations. Alors ça, c'est très important. Les déséquilibres. Il y a des contradictions dans l'être humain. Des contradictions. Il a des désirs infinis, des possibilités infinies, et en même temps, on est dans une société incapable de les utiliser pour tous, pour donner ce paradoxe fondamental. Et il y a bien d'autres. Donc, paradoxe, et des déséquilibres qui caractérisent à tous les niveaux la société. Voyez, c'est déjà un regard ici en profondeur et on repère des aspirations. Dans le numéro 10 vient donc le passage, je vais vous lire ça, de cette phénoménologie de la condition humaine dans le monde aujourd'hui vers l'interprétation théologique de la vocation humaine. Ça, c'est le numéro de passage tout à fait central. Comment passer du voir, alors au juger, comme on disait autrefois, on pourrait dire à l'interpréter. Hein. Le voir est déjà un interprété, le numéro 10. Le numéro 10 résume d'abord, vous voyez, les choses, donc le passage. En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés, donc je suis là sur la greffe, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l'homme. Voilà, c'est ça le passage. C'est en l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. Donc, on se résigne pas ici, si vous voulez, à une anthropologie sociale qui ne connaît pas le cœur humain ou l'individu. C'est déjà dans le numéro 6 qu'on trouve ça. La socialisation ne doit pas exclure la personnalisation. La socialisation ne doit pas exclure la personnalisation. C'est un des grands paradoxes que plus de socialisation ne donne pas nécessairement plus de personnalisation. Mais l'homme moderne risque de devenir, je dirais, un élément dans une tribu, l'esprit tribal, etc., etc. Donc plus de socialisation ne signifie pas nécessairement plus de personnalisation. C'est un des grands paradoxes. Et il y a ensuite les grands équilibres du cœur humain qui sont nommés. D'une part, comme créature, ah, là on passe sur le plan théologique, l'homme fait l'expérience de ses multiples limites. D'autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Choisir et renoncer, c'est la chose la plus difficile. Pire, et maintenant on passe à un autre niveau de nouveau, faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu'il ne veut pas et n'accomplit point ce qu'il voudrait. Et vous avez en bas de page une note, Romains 7, 14, c'est quasiment la première citation de l'Écriture, vous voyez. Et ensuite, face à cela, vient une typologie des réactions possibles. En somme, c'est en lui-même qu'il souffre division, l'être humain, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes. Le texte ne dit pas que les violences dans la société se réduisent à ce qui se passe dans le cœur humain. Il dit que les racines sont là, ultimement. Beaucoup, il est vrai, dont la vie est imprégnée de matérialisme pratique, sont détournés par là d'une claire perception de cette situation dramatique. Ou bien, accablés par la misère, ils se trouvent empêchés d'y prêter attention. Vous voyez, c'est très nuancé. D'autres, en grand nombre, pensent trouver leur tranquillité dans les diverses explications du monde qui leur sont proposées. Certains attendent du seul effort de l'homme la libération véritable et plénière du genre humain, et ils se persuadent que le règne à venir de l'homme sur la terre comblera tous les vœux de son cœur. Il en est d'autres qui désespèrent du sens de la vie, exaltent les audacieux qui, jugeant l'existence humaine dénuée par elle-même de toute signification, tentent de lui donner par leur seule inspiration toute sa signification. Néanmoins, donc ça c'est, vous voulez, c'est la première étape, donc, diagnostic. Deuxième étape, les discordes ont une racine dans le cœur humain, le problème de la personnalisation. Troisième niveau, typologie de toutes les réactions possibles, et on pourrait encore les élargir. Et quatrième point, de là naissent des questions. Néanmoins, le nombre croît de ceux qui, face à l'évolution présente du monde, se posent les questions les plus fondamentales ou les perçoivent avec une acuité nouvelle. Qu'est-ce que l'homme a ? Vous voyez ? On revient au point de départ du cours. Que signifie la souffrance, le mal, la mort qui subsistent malgré tant de progrès ? À quoi bon ces victoires payées d'un si grand prix? Que peut apporter l'homme à la société? Que peuvent-ils en attendre? Que peut-il en attendre? Qu'adviendra-t-il après cette vie? Et voyez, alors je terminerai rapidement par cela, c'est là-dessus que va se greffer maintenant la perspective théologique. Donc la démarche inductive, voir, et regardez donc encore rapidement la page 66, donc le point 2, numéro 10, paragraphe 2. Il ne reprend pas le schéma classique, c'est la première question qu'il faut observer, question-réponse. Vous pouvez poser les questions, nous l'Église on va y répondre. Vous voyez le catéchisme classique où les questions viennent après les réponses, on formule d'abord les réponses. C'est pas le schéma, c'est ça qui est remarquable. L'Église, maintenant, paragraphe 2, quant à elle, croit que le Christ mort est ressuscité pour tous, ah, c'est vraiment maintenant l'universalisme qui vient en premier, offre à l'homme, par son esprit, non pas des réponses, non pas des réponses, lumière et force, pour lui permettre de répondre, c'est l'homme qui répond de sa haute vocation. Vous voyez, c'est toute une autre logique qui s'introduit ici. Regardez bien ça. Alors, évidemment, l'homme est un être traversé par des questions. Cela fait partie de la vocation de l'homme. L'homme appelé non seulement à résoudre des questions, mais de répondre à un véritable appel. L'éclairage doctrinal, donc le jugé qui va venir, éclaire donc la vocation humaine. Et c'est la formule suivante. La clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Et ce qui va expliquer les deux parties, c'est pourquoi, sous la lumière du Christ, lumière et force, image de Dieu invisible, premier-né de toute créature, le Concile se propose de s'adresser à tous pour éclairer le mystère de l'homme, donc de ne pas répondre aux questions, mais d'éclairer le mystère de l'homme. Et pour aider, alors ça c'est la force, le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps, non pas les résoudre, mais dans un dialogue et une coopération d'aider. Donc vous voyez, on est sorti totalement ici d'un paradigme classique, d'une Église surplombante, mais on est dans une Église inscrite dans la société, on échange avec elle, et on recherche, voilà, à partir de son propre patrimoine, de ses propres ressources, d'éclairer les questions et, j'ai dit, communiquer des forces ou susciter des forces, ce qui est une toute autre manière de se rapporter à l'être humain. Voilà, donc on va voir ça la prochaine fois, avec le jugé ensuite, c'est la première partie, et ensuite la deuxième partie, le agir. Bien, merci beaucoup et à lundi prochain.